de Chiz 94.3.
Vous voulez vous informer sur l'impact du droit sur la société et la diversité culturelle? La Voix des droits, c'est l'émission qu'il vous faut. Animée par Nidia Paul, cette émission unique explore les liens profonds entre nos cadres juridiques et nos pratiques culturelles. Elle offre une plateforme captivante où experts, étudiants et artistes se rencontrent. Venez nous rencontrer à l'émission La Voix des droits chaque lundi en direct ou en rediffusion de 19h30 à 21h30 sur la radio Chiz FM 94.3. La Voix des droits, le rendez-vous entre droit et culture.
Il ne paye pas le prix.
Renversant
le mental.
Super.
Mental toughness.
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Conduite Antisportive les mercredis de 14h à 15h afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est un rendez-vous les mercredis et vendredis.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
Le Festival international de musique actuelle de Victoriaville revient cette année avec deux concerts majeurs. Fire Orchestra CBA Victoriaville et Sleepy Time Gorilla Museum. Des courts-métrages du cinéaste nominé aux Oscars Bill Morrison, un parcours d'installation sonore qui vous offrira une expérience sensorielle hors du commun et beaucoup plus. Ne manquez pas la 41e édition du FIMAV du 12 au 18 mai 2025. Info et billets sur fimav.qc.ca.
Salut, c'est Noémie, votre animatrice de Chérie, j'arrive! Chaque dernier vendredi du mois, retrouvez-moi pour Chiz au pub, une émission spéciale devant public, en direct du pub universitaire, pour en connaître davantage sur les projets et initiatives culturelles de votre campus. Entrevues, performances live, concours et plus encore. Chiz au pub, tous les derniers vendredis du mois de 16h à 17h30 sur les planches du Pobu et sur les ondes de Chiz 94.3.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Et tu fous, je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Ce soir, émission spéciale, nous recevons l'archéologue Carl Lavoie et l'historien et journaliste Dave Noël pour une émission qui porte sur un sujet fascinant et particulièrement polarisant en sciences historiques, c'est-à-dire la quête du tombeau de Champlain. Bonsoir Carl, Dave.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de se lancer dans ce sujet. Comment allez-vous?
Très bien.
Très, très bien.
Oui. Merci. À l'animation, vous êtes en compagnie de Rachel Archambault et vous êtes avec Marie-Andrée à la console. Personnellement, étant archéologue, diplômée de l'Université Laval, j'ai entendu parler dès mon baccalauréat de ce fameux tombeau de Champlain. Et j'avoue que c'est un peu le sujet que je m'étais promis de ne pas aborder à la radio, étant donné que c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement qui anime les passions, disons-le. Et finalement, pour cette dernière émission qui sera pour moi la dernière émission en animation, j'ai décidé de me lancer. Je voulais voir avec nos invités, avant de se lancer dans l'historique de cette recherche, quand est-ce que vous avez entendu parler de cette recherche-là ou quand est-ce que votre intérêt s'est développé? Carl, peut-être en premier, l'archéologue.
Ben moi, je suis venu en contact assez rapidement à mon arrivée à Québec, après mon arrivée à Québec, quand j'ai commencé mes études de bac. C'était en 1975. J'ai commencé en 1974. En 1975, j'ai eu le plaisir de rencontrer René Lévesque, qui était dans la Société d'archéologie de Nouvelle-France au Cégep Gardeau. Fait que je l'ai rencontré là. Et j'ai rapidement su, comme bien des gens, quand on le connaît, qui s'intéressait à Champlain. Et progressivement, il s'est mis à parler de la chapelle Champlain. Mais disons que ça m'a pas immédiatement titillé, mais je suivais quand même les choses.
Mm-hmm.
Alors, pour entrer dans le plus vif du sujet du tombeau comme tel, c'est vers 1988, quand il y a eu les interventions à l'église Notre-Dame de Québec,
mm-hmm.
que là, ben, connaissant René, je suis allé le voir parce que ça me trouvait ça un peu ahurissant, là, ce qui s'était produit.
On va en parler d'ailleurs plus tard.
Mais je suis allé le voir puis je lui ai dit, René, la prochaine fois que tu nous refais des interventions sur la chapelle Champlain, tu viendras me voir comme professionnel, comme ça on pourra s'organiser pour que soit, ça se fasse dans le bon ordre.
Ah, alors, c'est bien
c'est
ça.
Comme ça que ça a commencé.
Et je veux juste souligner aux auditeurs qu'on parle de René Lévesque, on parle du géographe et archéologue amateur et non du politicien. Donc, petite nuance importante à amener pour ceux qui sont moins familiers là, avec ce sujet. Sinon, vous, Dave, quel est le moment là, de connexion avec cette recherche-là?
Eh bien, moi, je ne suis pas de Québec, donc je suis arrivé après l'épisode René Lévesque. Donc, au début des années 2000 à Québec pour mes études en histoire. Et comme tout étudiant de l'époque, j'allais au Sacrilège, donc un bar bien connu de la rue Saint-Jean. Et quand on descend au sous-sol, on voit le cercueil de Champlain qui dépasse du mur. Et je voyais ça, je comprenais pas trop. J'avais manqué toutes les blagues qui avaient entouré, qui avaient circulé à l'époque, les caricatures du soleil. Donc, c'est par ce premier contact-là que j'ai entendu parler de l'histoire. Et par la suite, évidemment, j'ai lu tout ce qui a circulé par rapport au fameux tombeau.
Excellent. Les pubs plutôt étant vraiment un lieu de culture. Donc, pour les auditeurs, je vous ai préparé un très, très bref historique de cette affaire du tombeau de Champlain pour qu'on ait tous à peu près les mêmes informations. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent très bien le sujet, je vous confirme que oui, je vais aller assez brièvement. L'histoire de cette recherche du tombeau de Champlain, on pourrait en faire vraiment un podcast de au moins 15 épisodes. Donc, faut savoir que cette affaire débute en 1866 avec la publication d'un ouvrage qui affirme la découverte de sa sépulture à Québec. Et ce sont les prêtres Laverdière et Cassegrain donc, qui vont annoncer ça. Et ça s'inscrit dans un contexte de construction de l'identité nationale canadienne-française. S'ensuit une querelle par la suite dite des antiquaires qui est marquée par des débats sur l'authenticité des trouvailles et par des recherches archéologiques récurrentes. L'intérêt pour cette quête renaît dans les années 1940 et 1950, notamment avec Silvio Dumas et la Société historique de Québec. Mais encore là, aucune preuve tangible n'est trouvée. Dans les années 70 et 80, des nouvelles hypothèses émergent, et dont on a parlé quelques minutes de l'épisode de 1988. René Lévesque et l'archéologue Charles Baudry mènent des fouilles clandestines sous la cathédrale basilique de Québec où ils découvrent un cercueil. Mais le ministère des Affaires culturelles réfute les conclusions selon lesquelles il s'agirait donc de Champlain. Et une commission d'experts déclare qu'il s'agit plutôt d'une sépulture d'un prêtre jésuite du 19e siècle. L'affaire prend une dimension médiatique et politique en opposant archéologues, amateurs et professionnels. Dans les années 90 et 2000, la quête se poursuit malgré l'opposition des institutions officielles. La mairie de Québec finance des recherches pour en finir avec le débat, mais celle-ci alimente de nouvelles spéculations. Malgré les échecs successifs, la fascination pour Champlain et la charge symbolique de ses restes se maintiennent, encore aujourd'hui d'ailleurs, et on a toujours cet intérêt pour cette énigme. Voilà très très brièvement cette histoire. Dave Noël, vous signez deux articles pour Le Devoir sur cette recherche de la sépulture de Champlain. Le premier intitulé « Le rêve du tombeau de Champlain » en 2018 et un publié en février dernier portant le titre « Des fouilles dans le Vieux-Québec font ressusciter le fantôme de Champlain ». La simple mention du tombeau de Champlain auprès des historiens, archéologues et publics intéressés a le pouvoir de susciter les passions et aussi les débats. Selon vous, pourquoi ce sujet captive-t-il encore le public aujourd'hui en 2025?
Oui, c'est une bonne question parce que nous, dans les médias, on voit le taux de lecture des articles. Donc, on peut comparer vraiment quel sujet en archéologie a une plus grande portée qu'un autre. Et Champlain, c'est extraordinaire le nombre de clics qu'on obtient quand on mentionne son nom. Et d'ailleurs aussi, chaque fois qu'on a un chantier annoncé dans le Vieux-Québec, la blague revient immédiatement. Est-ce qu'on va nous annoncer la découverte de Champlain? Pourquoi ça passionne autant les gens? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, notamment le fait, le côté quête un peu, retrouver les ossements du père fondateur du Québec ancien et moderne. Donc, il y a vraiment la quête des origines un peu. Mm-hmm. Il y a le personnage qui est excessivement sympathique. Là, moi, je dis souvent que Champlain, c'est un peu le René Lévesque politicien du 17e siècle parce que c'est un personnage qui est pas polarisant, en fait. Disons qu'il a bien passé les années. Il incarne un certain nombre de valeurs qui nous parlent encore aujourd'hui, mm-hmm. de tolérance. Évidemment, c'est contesté par d'autres historiens qui rappellent que c'était quand même un dévot. Et que si on le ramenait aujourd'hui avec nous, on serait un peu surpris par certaines de ces valeurs qui nous paraîtraient un peu mm-hmm. arriérées, en quelque sorte. Mais globalement, c'est un personnage qui est très populaire, qui est donc recherché son corps. Il y a un volet quête et mémoire qui est combiné, qui va ensemble. Donc, et aussi, l'autre élément, peut-être, c'est qu'il y a toujours eu des passionnés qui ont maintenu vivant cette recherche-là. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. eux, ils entretiennent ce rêve-là de retrouver Champlain. Ce qu'on n'a pas pour d'autres personnages aussi important, par exemple, Jacques Cartier, par rapport à des vestiges qu'il a laissés ici, on pense à la Petite Hermine. Mm-hmm. Donc, on n'a pas la même passion par rapport à Cartier que par rapport à Champlain. Mais évidemment, encore une fois, dans un cas, on a un cadavre et dans l'autre, on n'en a pas. Donc, on a un volet qui s'ajoute avec Champlain.
Puis, il y a peut-être aussi le fait que cette recherche de Champlain, de cette sépulture-là, ça touche peut-être un peu plus l'image que le public se fait de l'archéologie, une image qui est parfois un peu trop romantique, parce qu'au quotidien, c'est rare qu'on va dans des sous-sols d'église chercher des tombeaux mystérieux. Donc, peut-être que s'il y a cette part-là aussi, qu'on touche à un imaginaire de l'archéologie qui, bon, est plus ou moins réel, mais qui fait rêver quand même.
Tout à fait, oui. On parle de tombeau, donc peut-être les gens imaginent un tombeau luxueux, quelque chose...
De la dorure,
mais évidemment, c'était tout à fait autre chose à l'époque. Là, on est au début de la colonie.
Absolument. Carl Lavoie, donc, je le mentionne, archéologue... Le sujet du tombeau de Champlain au niveau de la communauté archéologique au Québec, c'est presque une blague, en fait. On en entend parler beaucoup, mais il y a peut-être plus de blagues que de sérieux. Pensez-vous que la communauté archéologique québécoise aujourd'hui, là, des années après tout ce qui s'est passé dans les années 80, serait prête à de nouvelles recherches ou à peut-être collaborer sur cette recherche de Champlain-là? Pensez-vous qu'on est prêt ou qu'il y a encore un chemin à faire? Grosse question.
C'est une question un peu difficile. Moi, j'ai l'impression que les archéologues, vu que ça a fait l'objet d'un cirque par les interventions un peu inopinées de René Lévesque antérieurement, que tout le monde aimerait ça trouver Champlain quand on travaille dans le Vieux-Québec. Mm-hmm. Mais... la situation financière, tout ça, permet pas qu'on s'intéresse vraiment à reprendre des fouilles comme telles. Mm-hmm. Donc, il y a des groupes comme qui voudraient qu'on le fasse. Mm-hmm. Moi, je pense, par exemple, à Chablant retracer les vestiges que Sylvio Dumas a trouvés mm-hmm. dans l'îlot du Trésor.
Oui.
Ou la prétention d'avoir trouvé la chapelle Champlain, ce qui ne me semble pas le cas. Il serait intéressant de retrouver ces vestiges-là, si ça serait mm-hmm. faisable. Mais là, commencer à creuser pour creuser, c'est plus tellement à l'ordre du jour aujourd'hui.
Absolument.
Par contre, je trouve que c'est aussi justifié de vouloir continuer pour ceux qui en ont la passion.
Oui.
Si on a les fonds pour le faire, les autorisations pour le faire en suivant les normes de la loi, tout mm-hmm. ça, c'est très intéressant. Mais c'est pas une urgence nationale comme telle de, à tout prix, faire des fouilles. Moi, je pense que dans la situation actuelle, les terrains étant quand même assez connus, mm-hmm. bouleversés dans tout le coin du Vieux-Québec, je pense que la Ville fait très bien les choses actuellement en procédant à des opérations de surveillance et de fouilles mm-hmm. préventives, connaissant aussi le sujet de la chapelle Champlain à la Ville, dont on ne sait, par contre, pas du tout ce que la Ville pense du sujet comme tel. J'ai jamais réussi à faire
cracher,
comme je dis, le mot d'aucun archéologue à la Ville de Québec, mal je sais connaît.
Est-ce que c'est un défi pour un deuxième épisode?
Oui, mais c'est un sujet tabou.
Oui, tout à fait.
Puis ce qui est curieux, c'est qu'il soit tabou pour les archéologues. Et on a honte de ça, d'en parler, parce que c'est devenu comme un sujet de risée. Mais il faut dépasser la risée. Moi, je pense que les deux sont possibles. On n'est pas obligé Mais si on peut, ça serait le fun. Ça serait le fun, pourquoi? Parce que de découvrir des restes du tombeau de Champlain, ben moi, je parle au niveau de la chapelle Champlain parce que, bon, je peux m'avancer encore rapidement. Pour moi, les ossements de Champlain doivent se trouver sous la basilique Notre-Dame de Québec.
Vous lancez des jeux, on se lance déjà dans des hypothèses.
Oui, c'est une hypothèse, je pense que c'est la logique même. Mais la chapelle Champlain, qui est le premier, peut-être le deuxième endroit plutôt, où il a été enterré avec un monument qui est une chapelle funéraire, la première chapelle funéraire connue au Québec, ça serait intéressant de pouvoir peut-être en trouver des restes. Mais là, on peut s'étendre sur le sujet. J'en avais parlé un peu avant l'entrevue de ça. Fait qu'il faut. Mais tout est possible. Il faut jamais oublier que Champlain, contrairement à Jacques Cartier, pendant longtemps, qui était opté comme le synonyme d'un échec de colonisation avec Robert Ball.
Oui.
Donc, Champlain, c'est le fondateur de Québec, même si on l'associe M. Ducas-Demont et tout ça. Donc, c'est un peuple, hein, si on se considère comme un peuple, ben savoir où est notre fondateur, où est la personne qui nous a fait naître, ben ça m'apparaît important puis intéressant pour notre âme collective.
Oui, oui, tout à fait.
Mais c'est sûr qu'on est face ici, comme dans certains cas, autant Jacques Cartier que d'autres aussi, à une énigme. On n'a pas de visage, on n'a pas de portrait, on doit creuser beaucoup pour trouver des emplacements, tout ça. Voilà.
Il y a encore tellement à faire, assurément. Avant de poursuivre sur ce sujet, parce que clairement, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets à toucher, là, on va faire une petite pause musicale. Ceux qui ont déjà écouté mes émissions savent que je tente toujours de trouver au moins une pièce musicale thématique, et c'est encore une fois une réussite. Je vous offre donc la pièce intitulée « Le pays de Samuel » du groupe Le Vent du Nord pour débuter. Bonne écoute.
Ajouter des pointillés à une carte, suivre une flèche et remonter jusqu'à son arc, troquer ses bâtiments pour une barque, et des pots quelques arpents pour son monarque,
et des pots quelques arpents pour son monarque.
Rêver mieux que ces soldats espagnols, inventer un nouveau monde de créoles, où chacun aurait le droit à la parole, où le tout serait plus grand. Symbole,
où le tout serait plus grand qu'un symbole.
Champlain a métissé sa vie. Champlain rêvait notre pays. Du littoral à Interlaine, des chemins d'eau aussi. Il nous reste à faire ce pays. Il nous reste à faire ce pays. Religion et leur folie, aidé par un roi qui est ange mon ami, il partit à la conquête de sa vie, insufflant à l'Amérique son esprit,
insufflant à l'Amérique son esprit.
À la fin de son voyage, la Nouvelle-France accueillait les colons en terre d'abondance. Il s'éteint à la Noël en confiance, nous léguant son seul enfant dans l'espérance.
Terre en vue, capitaine Cartier.
Ha! Quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Vous êtes de retour à 3100 secondes d'histoire pour une émission en compagnie de l'archéologue Carl Lavoie et de l'historien et journaliste Dave Noël. Et on parle du tombeau de Champlain, ou plutôt de sa recherche. Carl, autre question pour vous. Richard Couture, qui a publié l'ouvrage La Chapelle Champlain, qui est sorti en 2024, mentionne dans une entrevue avec Dave Noël, qui est avec nous également, et je cite la phrase de Richard Couture. Il mentionne qu'il aurait pu s'épargner cette recherche de 4 ans et demi, donc j'imagine pour son ouvrage, vu la crainte de perdre de la crédibilité. Je ne fais pas partie du sérail des historiens et des archéologues. Il fallait que ce soit quelqu'un comme moi qui le fasse. Fin de la citation. Citation que je trouve extrêmement parlante. On en a parlé un petit peu là, de cette tension entre archéologues amateurs, archéologues professionnels, des historiens aussi et des passionnés qui tiennent ce sujet du tombeau de Champlain vivant. Donc, Carl, j'aimerais vous entendre un peu en tant qu'archéologue qui a travaillé sur ce sujet-là, sur cette citation, surtout sur cette dernière phrase. Donc, pensez-vous que cette quête doit être menée par, dirigée par un non-archéologue, avec des archéologues professionnels, bien sûr, mais est-ce que ça devrait réellement être un non-archéologue qui dirige ses recherches?
Autre question difficile.
Oui, j'ai choisi des bonnes questions pour vous ce soir. C'est là.
Moi, je pense pas vraiment. OK. Je pense que l'archéologue, il va faire le travail qu'il a à faire dans un dossier. Mm-hmm. Et le dossier du tombeau de Champlain et de la chapelle Champlain, c'est un dossier archéologique comme les autres.
Mm-hmm.
Qu'on l'aime professionnellement ou pas, ça n'a aucune importance. Ça reste quand même un dossier réel.
Mm-hmm.
Et ce dossier-là va nous permettre de comprendre, dans le cas du Vieux-Québec, la structure du Vieux-Québec, si on trouve des vestiges, savoir comment il est organisé. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. À savoir, ça doit être... Vous savez, des historiens, je préfère quand c'est un historien professionnel qui fait le travail, OK, parce qu'il y a tous les outils nécessaires pour aller analyser les documents, pour...
Les archives,
les
cartes.
Interroger, tout ça. Déjà, l'archéologue, veut pas, c'est un historien. Mais non, faut quand même des cours d'histoire, parce que on sert de l'histoire, de ce qui a été dit. Et puis, des fois, on trouve des choses surprenantes, d'ailleurs, que l'historien ne trouve pas dans leurs documents, mais qu'on trouve nous.
Mm-hmm. Okay, c'est un travail d'équipe.
C'est un travail d'équipe. Mais qu'il y ait des archéologues ou des historiens amateurs qui s'intéressent au sujet, ben, j'en ai rien contre. Moi, je dis souvent que c'est le genre de dossier où c'est les citoyens qui doivent faire avancer les choses.
OK.
Okay. Même les dossiers archéologiques, c'est la même chose. Les archéologues, on est toujours en train de se plaindre qu'on n'a pas de sous, qu'il n'y a pas de fonds, qu'il n'y a rien. Mais il y a plein de sujets formidables que chaque archéologue, on a des projets, nous-mêmes, qu'on a.
On a tous des projets.
Extrêmement fascinants. J'en ai perdu passer à côté de plusieurs parce qu'il n'y avait pas de sous.
Mm-hmm.
OK? Alors, le citoyen ordinaire qui s'intéresse avec passion à l'histoire, puis qui fasse la recherche, tant mieux. Mais il ne faut pas quand même qu'il se prenne pour le bon Dieu plus qu'un historien. Je pense qu'il a besoin de travailler avec les autres. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été tout à fait le cas, à ma grande insatisfaction, mais c'est cela.
Je pense que Richard Couture, dans son ouvrage, lui, c'est un informaticien de profession.
Oui, oui.
Ce qu'il voulait dire aussi, c'est que lui avait le recul, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont penchés sur la question, que le débat, des fois, concerne une virgule, un mot raturé, la réserve d'iBoost. Donc, c'est vraiment très niché comme débat.
Mm-hmm.
Et lui a décidé de reprendre le dossier de zéro, sans a priori. C'est ce qu'il dit. Et il a utilisé une démarche vraiment méthodique, une méthodologie quand même très rigoureuse. Son ouvrage est très bien fait, très bien mené. Et lui, il est revenu à une conclusion qui avait eu lieu dans les années 50 de Silvio Dumas, donc derrière le 11 rue de Buade, où se trouverait la chapelle Champlain de son point de vue. Et sa thèse, elle est bien expliquée. Donc, c'est une démarche qui est quand même assez humble aussi. Il explique les zones d'ombre. Et c'est une pierre qui s'ajoute au dossier. Je trouve que le mérite de son ouvrage, c'est de reprendre l'ensemble de la question et de proposer le résultat de sa recherche, tout simplement.
OK. Je n'ai pas lu encore cet ouvrage. Il est dans ma liste d'achat. Parce que clairement, j'ai envie d'aller en savoir un peu plus sur comment il est arrivé à ses conclusions, à son hypothèse principale. Mais ça va être intéressant pour moi de voir, en fait, s'il y a une prise en considération de certains témoignages d'archéologues, peut-être, ou d'historiens. Donc, je ne sais pas si, Dave, vous avez vu ça dans votre lecture, là. Je ne vais pas vous mettre trop...
Oui.
sur la chaise.
C'est que lui nous ramène aux fouilles des années 50. Mm-hmm. Et il y avait eu un archéologue ontarien qui était le meilleur de l'époque, en quelque sorte, qui était venu à Québec. Et il y a vraiment eu une fouille scientifique pour l'époque,
oui,
qui a été
faite,
oui, tout à fait. Mais donc, c'est ça, celui, il nous ramène au point de départ, c'est l'intérêt de sa démarche aussi, là.
En fait, je trouve que le monsieur adule certaines personnes qui sont grands scientifiques à l'époque. Le monde a changé. Il y a une réflexion qui doit se poursuivre. Mm-hmm. Et je crois que monsieur Couture s'est buté justement sur la question dont je vous ai parlé au sujet d'une conférence que j'ai donnée le 1er mars dernier. Donc, on peut bien vouloir ressasser la même poutine tout le temps. C'est que moi, en tant qu'archéologue, personnellement, j'essaye de voir plus loin que ça et voir pourquoi que des documents qu'on présente en preuve ne concordent pas entre eux.
Mm-hmm.
Alors, j'ai travaillé à démontrer ça. C'est pour ça que ça m'a donné une conférence après 20 ans de réflexion que j'ai donné. Alors, c'est tout à fait hypothétique, mais pas de preuve tangible. Mais quand on regarde bien la situation, bien les cartes, bien les plans, ça a bien du bon sens.
Là, de ce que je comprends, là, c'est qu'il y a un autre débat. Et là, il faudrait faire encore une autre émission. Donc, la prochaine émission serait de faire parler quelqu'un de la Ville de Québec sur le sujet. Et après, une autre émission où on pourrait rencontrer Richard Couture, parce que là, je ne mentionne que sa citation, mais il n'est pas là pour expliquer certainement son livre. Donc, on ne va pas trop en parler davantage de cet ouvrage. Mais clairement, il y a un potentiel là, de autre émission sur le sujet. Dave, je reviens à vous. Selon vous, là, par ce que vous faites, par le fait que vous êtes historien, que vous êtes journaliste, vous avez parlé à Richard Couture, vous avez parlé, bon, vous connaissez Carl Lavoie, vous avez parlé à plusieurs personnages clés, là, personnes clés de cette recherche. Comment l'archéologie puis l'histoire se complètent? Là, on peut imaginer, bon, les cartes, les fouilles, mais est-ce que vous avez vu peut-être des tensions, des frustrations? Est-ce qu'il y a un canal de communication qui se fait entre les deux? Comment ces deux mondes-là viennent jouer ensemble selon ce que vous avez vu?
L'archéologie, l'histoire?
Oui, exactement.
Évidemment, c'est ça dans le cas de Champlain. C'est un cas très particulier. J'en vois pas d'équivalent au Québec. Il y a des sociétés qui se penchent à ce point-là sur un dossier. Je crois qu'il y a vraiment Champlain et le reste. Donc, c'est un cas à part. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, très actifs, très passionnés. Donc, ils sont à l'affût de tout ce qui se passe. Et,
des fouilles archéologiques, entre autres.
Oui, des fouilles archéologiques. Et, donc, c'est ça. Je vois pas de
tension. Avez-vous remarqué certaines frustrations ou certaines tensions entre ces... Là, je veux pas non plus partir des débats, là, mais je pourrais m'imaginer peut-être une frustration de la part de certaines sociétés qui s'intéressent à ce sujet-là et qui voient, en fait, parfois un mur très opaque de ce qui se passe en archéologie. Et ça, c'est un problème que moi-même, je mentionne, là, qui manque beaucoup de communication puis d'ouverture sur ce qu'on fait en archéologie. Et je sais pas si vous avez remarqué ça aussi.
Je crois qu'ils comprennent quand même le concept de comment fonctionne l'archéologie, qu'on n'est pas dans la recherche de trésors, dans la fouille chirurgicale, on va aller à telle couche chercher quelque chose. Je crois que les gens comprennent ça.
Mm-hmm.
Mais peut-être qu'il y a un espoir qu'on reprenne certaines fouilles, qu'on vide certaines zones. Donc, et cet été, donc, dans un mois même avant l'été, les fouilles sur la rue de Buade vont permettre d'explorer un peu plus, de se rapprocher de la zone.
De la zone. Puis j'ai une autre question par rapport à tous les articles, parce que les deux, on l'a mentionné, vous avez écrit deux articles sur le sujet du tombeau de Champlain dans Le Devoir qui ont été très lus, très partagés. Vous mentionnez donc, vous avez des passages que vous avez fait des entretiens avec des historiens, avec Richard Couture, avec Carl Lavoie, etc. Est-ce qu'il a été difficile pour vous de communiquer avec les archéologues? Est-ce qu'on avait une ouverture de vous parler de ce sujet-là? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce qu'il y a eu certains défis?
Disons que dans le cas présent, j'ai vraiment posé des questions donc à l'auteur de l'ouvrage qui était le plus récent, qui était Richard Couture, qui est un ouvrage, comme je disais, très imposant. Et puis j'ai parlé à M. Lavoie, évidemment, qui est le spécialiste du sujet. Je suis pas allé du côté de la Ville de Québec parce que donc c'était plus un topo qui avait une ambition limitée. Là, c'était pas non plus l'idée
d'écrire un livre non plus. Là.
Non, c'est ça. En journalisme, évidemment, on n'a pas le luxe de se pencher trop longtemps sur un sujet comme on voudrait le faire.
Oui,
c'est un peu tragique. D'ailleurs, on doit s'arrêter. La journée achève, donc il faut livrer le texte. J'aurais bien aimé, mais donc... Mais je crois que du côté de la ville, évidemment, on a été échaudé par... certains épisodes des années 90 qui ont marqué, qui ont marqué peut-être aussi beaucoup plus qu'ils auraient dû, parce que depuis 25 ans, il n'y a pas eu de recherche
Il n'y a pas eu de scandale, là, vraiment. Là.
Non, il n'y a pas eu de scandale. Il y a eu des opérations au géoradar qui ont été effectuées dans la rue, mais pas de fouilles spécifiques comme on avait vu, par exemple, qui ont mené jusqu'au restaurant Wang, donc dans le sous-sol du fameux restaurant Wang.
Cet fameux épisode.
C'est ça qui a vraiment marqué tout le monde.
Mm-hmm. Merci pour vos réponses. En fait, c'est maintenant le temps d'une petite pause publicitaire, mais avant, on va écouter une seconde pièce musicale. Bon, cette fois, c'est pas du tout en lien avec le tombeau de Champlain, mais une excellente pièce tout de même. On écoute « Journal d'un loup-garou » de Lou Adrienne Cassidy. Bonne écoute.
Ne crois pas tout ce que l'on dit de moi, ou la panthère ou le chat. Et si tu plonges au fond de mon regard, tu pourras voir de qui est la chanson. Ce que l'on dit de moi, et l'étoile et le trou noir. Si tu rêves à moi, il est déjà trop tard. Je brûle tout ce que je vois. Et si tu plonges au fond de mon regard, tu pourras voir de qui est la chanson. Attention.
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Est-ce que ça peut attendre, ces 3600 secondes d'histoire?
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire en compagnie de Carl Lavoie et Dave Noël. Donc, on reprend le sujet du tombeau de Champlain. On a encore plein de choses à dire. Donc, on l'a mentionné rapidement tantôt. En fait, Dave l'a mentionné rapidement. Il va y avoir des fouilles archéologiques programmées pour cet été sur la rue de Buade. Rue de Buade qui est vraiment au cœur de la recherche du tombeau de Champlain. Et ça va donc redonner un souffle nouveau aux discussions sur l'emplacement de la sépulture de Champlain. Il faut quand même mentionner que l'intervention n'a pas pour objectif la découverte potentielle de ce tombeau presque mythique, mais plutôt la documentation des sépultures qui sont issues de l'ancien cimetière Sainte-Famille, donc qui sont sous la rue de Buade, en prévision de travaux de réfection d'Hydro-Québec. Donc, on n'a pas le choix de faire des fouilles avant de faire passer, bon, fil ou autres composantes d'Hydro-Québec. Donc, comme de par l'emplacement des fouilles sur la rue de Buade, on s'attend à beaucoup de questions, beaucoup de curieux, et vraiment un très grand chantier qui va raviver assurément les passions. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Carl, vous avez mentionné bon certains documents, vous avez mentionné votre opinion aussi, à savoir bon qui devrait faire cette recherche et sur tombeau de Champlain. Mais je suis curieuse de connaître votre opinion. Encore une question difficile pour vous. Pensez-vous qu'il serait possible pour les archéologues de retrouver les restes de Champlain sous la rue de Buade, dans l'endroit où qu'on va faire les fouilles cet été? Pensez-vous qu'il est là?
Je ne crois pas.
Ouh.
Je ne crois pas. Je tiens à rappeler qu'en 1992, alors que je travaillais pour la Ville de Québec, mais sur les terrains adjacents, il y a eu des fouilles justement pour le tombeau, pour refaire un tombeau pour Monseigneur de Laval.
Mm-hmm.
Et c'était un emplacement justement où, selon l'hypothèse d'une pseudo-carte de 1640, qui est une fiction, une fabrication, que la chapelle Champlain se serait trouvée le long du transept sud. Alors, les fouilles ont eu lieu et il n'y a rien qui a été trouvé de ce côté-là. Donc, ça réglait, comme le cas de la chapelle Champlain,
mm-hmm.
l'hypothèse à cet endroit-là.
Mm-hmm.
Okay. Alors, la recherche que j'ai faite en 1980, pour les travaux de 1997 au Géoradar, pour le comité Champlain de l'époque, je vais passer toute la documentation disponible j'avais fait comme Guichard Couture, j'avais tout refait la patente, toutes les études.
Toutes les cartes, donc, toutes les cartes, documents.
Toutes bien analysées, puis analyser les documents principaux. Et moi, j'en étais venu à la conclusion que la chapelle Champlain se trouvait plus vers la rue du Fort.
OK.
Okay. Donc, étant donné la dernière analyse que j'ai faite, mais je pense pas qu'on va trouver quelque chose dans la section de la rue Buade.
Mm-hmm.
Qui va être expertisé. Parce que ça se termine à la rue du Fort et vraiment, mm-hmm. selon l'hypothèse que je défends personnellement, sur la foi des documents, puis l'analyse que j'en ai faite, ça serait dans la rue du Fort.
Ou
à l'intersection, mais à l'intersection.
Mm-hmm.
Et on a vu qu'il y a eu des surveillances, des travaux en juin 2022 sur la rue du Fort, mm-hmm. qui a ouvert cette partie-là du terrain et semble vrai. J'ai pas encore vu le rapport, mais ce que j'ai vu de mes yeux, c'est qu'il y a pas grand-chose qui subsiste de ça ici.
Il y a eu beaucoup de bouleversements, il faut le dire.
C'est un terrain que toutes les rues ont été bouleversées. Il faut oublier qu'il y a eu, un tramway qui a passé sur les mm-hmm. deux axes, d'ailleurs.
Mm-hmm.
J'ai eu l'occasion d'en regarder en dessous des trottoirs du côté de la rue du Fort. C'est de la brique, des trucs. La rue était plus large, la rue était plus étroite à l'époque.
Mm-hmm.
Il y a eu des bouleversements constants.
Mm-hmm.
Alors, ce ne serait pas surprenant qu'il ne reste plus aucune trace de quelque bâtiment que ce soit, soit à l'emplacement de mon hypothèse,
mm-hmm.
Dont j'attends le rapport, et sur la rue de Buade. Mais ça, on est encore dans l'hypothèse, une tant qu'on n'a pas du solide,
mm-hmm.
mais les fouilles vont être faites, il y a déjà eu beaucoup de fouilles.
Mm-hmm.
Les fouilles qui vont arriver en 2026, cette année, ben, ils vont permettre d'aller chercher l'essentiel parce qu'on va tout ouvrir à ce moment-là.
Mm-hmm.
Donc, on va avoir des réponses qu'on aura, mais ça va surtout nous informer. En tout cas, si on n'a rien sur la chapelle Champlain, comme je pense, ce sera le cas. On va avoir de l'information sûrement sur l'organisation du terrain au 17e siècle.
Assurément.
Puis ça, c'est intéressant.
Oui, en fait.
Même s'il n'en reste pas beaucoup à cause de la destruction depuis cette époque-là, là.
Tout à fait. Et en fait, de ne pas retrouver la chapelle ou autre structure comme ça, c'est une information en soi. Hein. Parfois, certaines personnes qui pensent que l'archéologie, c'est on réussit quand on trouve quelque chose, mais ça fonctionne pas du tout comme ça. L'absence est parfois plus parlante que la découverte.
C'est comme j'explique souvent, c'est des fois on doit trouver quelque chose, on ne le trouve pas, et ne rien trouver, c'est qu'on a fait le travail de ne rien trouver.
Mm-hmm.
Et on
mm-hmm.
fait la démonstration. C'est la meilleure démonstration, c'est de rien trouver, alors quand même, on devrait trouver quelque chose.
C'est vrai.
Faut pas oublier aussi qu'il y a eu des projets de construction qui n'ont jamais été réalisés.
Mm-hmm.
Et on pensait pendant longtemps à certains endroits qu'il y avait des bâtisses, on allait retrouver des murs.
Mm-hmm.
Rien. Parce qu'on s'aperçoit, en étudiant un peu par le biais de l'histoire, entre autres, que ah, finalement, c'était juste un projet. Ça n'a jamais été construit.
Mm-hmm.
Et là, on comprend. C'est pour ça que c'est important, l'histoire des archives avec les historiens puis les archéologues qui travaillent en combinaison. Ça, c'est important.
Il faut savoir aussi que la rue de Buade, on a le cimetière Sainte-Famille,
exact.
Donc qui est un cimetière du 17e siècle,
oui.
postérieur à Champlain. Moi, le but de mon texte que j'ai fait en février, c'était mm-hmm. de prévenir les coups, parce que c'est assuré qu'on va trouver des ossements, beaucoup d'ossements.
Beaucoup d'ossements.
Et immédiatement, on va parler de Champlain parce qu'il est enterré dans la zone donc environnante
mm-hmm.
et déplacé potentiellement pas très loin. Donc, c'est clair qu'on va venir à ça rapidement. Donc, d'où l'intérêt de faire ce texte-là avant qu'on fasse cette découverte-là pour mm-hmm. aussi préparer le terrain... littéralement. Là.
Préparer les, ouais. les intéressés aussi et les curieux. Donc, aussi pour comprendre ceux qui nous écoutent puis qui vont peut-être passer cet été dans le Vieux-Québec, c'est toujours une petite marche agréable. Si vous voyez des clôtures obscures, des panneaux qui vous empêchent de voir les fouilles archéologiques, sachez que ce n'est pas parce que les archéologues vous cachent ce qui se passe. C'est surtout parce qu'on fait la fouille de sépultures humaines et pose quand même des enjeux éthiques assez importants. Donc, on évite les photos, les photographies, que ce soit du public ou des médias, des restes humains de pauvres gens qui ont vraiment rien demandé dans toute cette quête du tombeau de Champlain. Donc, c'est assurément une recherche qui va être intéressante à suivre cet été.
Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y avait un mur en 1702 qui était dans la rue, puis il y a un fameux mur qui a été détruit en 1833, le long duquel, qu'on ne sait pas où,
Sur la rue de Buade,
où okay. on a trouvé apparemment une espèce de sépulture avec des personnages de l'époque. On ne sait pas c'est où. Il existait.
Ah.
On a trouvé la description de ça dans l'ingénierie de la Ville de Québec, mais il devrait avoir un plan avec ça, et mm-hmm. le plan est disparu. Par conséquent, ça contribue à l'énigme de savoir où c'est où. Et si ce mur est assez long, vous pouvez se rendre justement à la rue du Fort éventuellement. Mais ça, faut regarder c'est quoi. Mais il y a eu d'autres découvertes avec des personnages. Donc,
mm-hmm.
C'est sûr que ça va attirer les curieux. Et pour les commerçants qui sont dans le coin, pour certains, ça va leur apporter un peu de clientèle.
Un peu de sous, peut-être un petit café, peut-être un vendeur de slush autour du site.
Oui.
Donc, on l'a mentionné, la fouille va amener une foule de spécialistes, d'amateurs, de curieux, de journalistes. Comme je l'ai mentionné, ça amène quand même des enjeux éthiques au niveau des photographies. Sans permission, il y a une probabilité que peut-être qu'il va trouver Champlain, mais on s'entend que ce qu'on est certain de trouver, c'est des sépultures humaines. Puis également, dans l'éventualité d'une découverte qui pourrait peut-être être liée à Champlain, on s'attend à ce que les archéologues soient extrêmement prudents. Pour ceux qui connaissent un peu l'archéologie au Québec, à Québec surtout, et les journalistes, on se rappelle l'annonce trop précoce de la soi-disant palissade de Beaucourt en 2018, qui fait encore couler l'encre aujourd'hui. Il y a plusieurs experts qui remettent en doute cette interprétation et critiquent l'identification précipitée et surtout le partage aux médias de cette découverte. Donc ça, en soi, c'est tout un autre sujet, mais ça nous permet en fait de nous interroger un peu sur les fouilles de cet été et le contact avec les médias. Donc, Dave Noël, en tant que journaliste, qui couvrira, je m'en doute certainement, l'avancée des fouilles. Ça serait quoi votre souhait relativement à l'accès aux découvertes et aux hypothèses pour les médias?
C'est qu'on soit tenu au courant. Donc, des fois, on l'apprend indirectement, mais c'est d'avoir des suivis aussi. Puis l'exemple de la palissade de Beaucourt, moi, j'y étais à la fameuse conférence de presse.
Oh, ce moment.
Avec François Legault, les tambours et tout ça. Et ça, c'était vraiment étonnant, que cette erreur-là était possible, en fait, qu'on ait mmh. appelé tout le monde avec des documents qui n'étaient pas finalisés. Donc,
c'est vraiment
un exemple de choses à ne pas faire.
Mmh.
Et aussi, la confiance, c'est important. en toute chose. Et dans ce cas-là, il y a un lien de confiance qui a été brisé. Maintenant, il y a toujours un doute. Et puis, quand il y a des découvertes, récemment, il y a eu une découverte sur le cavalier du Moulin, dans le Vieux-Québec, et les archéologues étaient très, très prudents.
Oui.
Même, c'était un excès de prudence, parce que c'était évident que c'était une fortification associée au site. Mais donc, on est resté marqué par cet épisode-là.
Assurément. Puis, on en parle souvent sur les terrains, là, je peux vous le dire. Là, c'est resté vraiment comme un épisode qui est encore très, très frais, encore présent. On arrive déjà à la question de conclusion, mais là, quelle question que je vous ai préparée, chers invités. Bon, est-ce qu'on devrait entamer à nouveau des recherches spécifiquement axées sur la recherche du tombeau de Champlain? Donc, est-ce qu'on devrait plutôt laisser tomber, pas nécessairement les recherches, mais de se dire, bon, si on le trouve, on le trouve, tant mieux, mais on fera pas nécessairement de recherche. Puis si c'est ça votre réponse, je voudrais vous entendre sur quel autre aspect de l'histoire de Québec ou de la Nouvelle-France mériterait peut-être un peu plus d'études approfondies. Ou si vous pensez qu'on devrait reprendre une campagne spécifique pour le tombeau de Champlain, j'ai envie de vous entendre sur l'équipe idéale pour faire cette recherche. Donc, on pourrait commencer par vous, Carl. Est-ce qu'on doit faire des recherches spécifiques pour retrouver le tombeau de Champlain en 2025?
J'ai un peu répondu à la question au début de l'entrevue.
Vous restez sur la même posture?
Je reste sur la même posture. Mais je pense que ce n'est pas une nécessité absolue, puisqu'il y a des travaux. Mais il y a des choses à contrôler. Moi, comme j'avais expliqué, pour les découvertes de Sylvio Dumas, j'aimerais retrouver, voir ce qu'il a trouvé. Et Sylvio Dumas, il a laissé son rapport, c'est pas grand-chose. C'est une revue qui décrit quelque chose qu'il a fait, mais on n'a pas de stratigraphie, on n'a pas d'analyse, rien de ça là-dedans.
Les années 50, un rapport...
Ouais, exactement, c'est ça. Je me souviens toujours, par rapport à ces fouilles-là, je me souviens bien, Michel Gaumont avait participé à ça, ou était plus proche, puis il m'avait dit à un moment donné, il dit... Sylvio Dumas, il présente des bâtiments avec des voûtes, là, avec des abscides. Fait que Michel Gaumont était un archéologue très, très connu,
Par les archéologues,
au ministère de la Culture. Tu sais, Carl, il dit, Sylvio Dumas, il voyait une pierre déplacée un peu en biais, là, puis là, il voyait un abside. Là. Puis quand tu regardes les vestiges qui ont été trouvés, ça ressemble pas mal à ça. Fait que moi, j'ai l'expérience que dans des travaux ailleurs aussi, une pierre déplacée sur un mur cassé, qui fait une courbe, on peut s'imaginer n'importe quoi. Mais il faut se rendre compte de ça. Donc, il y a une expérience qui n'était pas là, je pense. Donc, ce serait intéressant de retrouver ces vestiges-là. Mais là où ils sont, c'est pas évident de déranger des propriétaires, tout ça, pour aller revoir ça. Mais c'est accessible encore. Donc, c'est ça.
Dave, vous avez quelque chose à dire sur le sujet?
Je pense que l'exemple récent de la palissade de Beaucourt nous montre que les archéologues ne sont pas à l'abri de ça dans le cas présent. Donc, Sylvio Dumas est un homme de son époque, mais il faut quand même faire attention. Je pense qu'effectivement, à l'arrière-cour du 11 rue de Buade, où se trouvaient les structures découvertes par Dumas dans les années 50, c'est un site qui peut être intéressant, surtout que le roc est très près. Donc, sous la surface, ce n'est pas des fouilles énormes sur le plan financier. S'il y avait quelque chose à faire, ça serait peut-être de retourner sur place et revoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Il y a des bouts de bois qui ont été trouvés à l'époque, qui sont restés sur place. Peut-être une analyse du bois permettrait d'avoir le cœur net et de vider ce dernier élément potentiel. Parce que, comme disait Carl Lavoie, tout autour, ça a été tellement bouleversé, c'est construit. Donc, c'est peut-être le dernier endroit, un petit oasis, où c'est encore possible de faire une recherche qui serait spécifique à Champlain. Mais sinon, est-ce qu'il faut faire une recherche vraiment pour ça? Ça, c'est une autre question. Ça n'existe pas vraiment de nos jours, des fouilles comme ça, là, ciblées commando, en quelque sorte. Donc, ce serait vraiment étonnant que ça arrive.
En effet, parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec l'archéologie au Québec. Autrefois, oui, on avait un intérêt bon, pour les personnages de l'époque, pour certains bâtiments. On s'intéressait là, aux grandes figures. Mais aujourd'hui, l'archéologie professionnelle est beaucoup plus axée sur un peu une prévention. Donc, on ne va pas fouiller juste pour fouiller. On va vraiment aller faire des interventions en amont de travaux de construction, par exemple, ou de réfection. Bien sûr, il y a des chantiers écoles qui existent, qui sont là plus en mode pédagogique. Mais c'est rare qu'on va se dire, ah, à cet endroit-là, je sais qu'il y a ça ou je me doute qu'il y a ça, on va aller voir ça. C'est plutôt, bon, s'il y a des travaux à ce moment-là, on va en profiter pour aller fouiller et surtout protéger, documenter avant la destruction possible.
Je dirais que ce genre de fouilles-là serait possible s'il y avait des fonds pour les faire. Alors, les budgets d'archéologie au Québec sont très, très réduits, là. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qui pourrait être fait.
Mm-hmm.
Et on n'est pas beaucoup d'archéologues qui pourraient faire énormément de choses parce qu'on a tous des, comme on l'avait souligné auparavant mm-hmm. et vous-même, autant des projets dans nos têtes de sites exceptionnels. Et la première nouvelle qu'on sait souvent, c'est que ces sites-là vont être détruits parce qu'on n'a pas agi. Parce qu'on n'avait pas de sous. Alors, il serait pas. On est assez riche comme société pour pouvoir faire ça.
Mm-hmm.
Okay. Mais j'insiste sur la prudence aussi. Dave parlait de prudence. Ben, je pense que même dans le cas de la palissade au Cavalier du Moulin, je crois pas qu'on doit se lancer rapidement, même si on peut affirmer, comme dans ce cas-là, que c'était vraiment la palissade, la structure. Il faut attendre d'avoir les résultats de l'archéologue. Parce qu'il y a toutes sortes de données qui arrivent de partout sur un chantier archéologique qui peuvent nous amener à penser que c'est ça sur le moment, même si c'est à l'endroit prévu, mais il peut y avoir autre chose.
Mm-hmm.
Donc, c'est plus prudent d'attendre. Les rapports sortent. On a un an pour produire nos rapports. Ça sort au bout d'un an. Et ensuite, on peut rendre ça public rapidement. C'est mieux d'être prudent. Puis l'archéologue doit toujours être prudent.
Mm-hmm.
Même quand il consulte sa documentation historique, qu'il travaille avec un historien ou plusieurs historiens, il faut qu'il soit prudent sur l'analyse de ça, l'interprétation de ça. Il doit jaser avec l'historien, ce qui est de plus en plus le cas, parce qu'avant, on faisait nos affaires chacun de notre bord. Tu sais, les cartes, ça dit ça, puis l'archéologue arrivait, mais il n'a pas de ça. Fait que c'est la discussion entre les professionnels d'équipe. De l'histoire.
Mm-hmm.
Puis l'archéologie, plus que tout autre, c'est un travail d'équipe et de suréquipe, parce que pas juste un historien, un archéologue. T'as des géologues, t'as des
géomètres, géographes.
Toutes sortes de. La géophysique, c'est là aussi.
Mm-hmm.
Alors, c'est là partout. Donc, c'est faut être prudent.
Il faut aussi mentionner pour les gens une autre leçon d'archéologie, que parfois sur le terrain, on va trouver des choses, on va trouver des artefacts, des structures, mais que c'est souvent au laboratoire, une fois que les objets sont nettoyés et identifiés par un spécialiste en culture matérielle, que parfois on a l'élément qui nous permet de dater certaines structures qu'on ne voit pas. Sur le terrain, on est excité, c'est des grosses journées aussi, et donc parfois on peut manquer des petits éléments. Dave, on a le temps d'une dernière question. Donc, je me lance. Selon vous, quels seraient les impacts potentiels d'une telle découverte, telle découverte du tombeau de Champlain, bien sûr, sur notre compréhension de l'histoire de la Nouvelle-France, sur l'identité québécoise? Quel impact ça aurait, cette découverte-là?
Ben, je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'on trouve exactement. Faudrait d'abord être sûr de faut identifier le personnage. Est-ce qu'il reste des artefacts autour parlants? On sait qu'il a été blessé, Champlain. Pendant une bataille contre les Iroquois. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est retrouvé. Mais je pense pas que ça nous apprendrait nécessairement beaucoup de choses sur le plan historique et archéologique même. Mais peut-être plus sur le volet mémoire qui serait le plus important. Parce que oui, des fois, les archéologues sont un peu tannés de s'en faire parler de ça. Mais faut tenir compte quand même du fait que dans la population générale, c'est une quête qui les passionne. Donc, faut pas le prendre à la légère. Ça mérite qu'on s'y intéresse avec sérieux et faut pas prendre ça de haut non plus. Donc, surtout qu'on n'a pas d'autres, on n'a pas d'équivalent. Par exemple, Frontenac est un personnage très célèbre. Il se trouve pas très loin dans un ossuaire de la basilique et personne ne le cherche. On n'en parle jamais. Il est là avec la Jonquière et d'autres gouverneurs. Personne dans la population générale, dans le fond, il n'y a pas de mouvement de masse, il n'y a pas de société Frontenac qui existe pour retrouver les restes du gouverneur. Donc, c'est un cas unique et je pense que ça mérite quand même du sérieux. Oui.
On a le temps un petit peu là, de parler de ces ossements-là de Champlain qui aurait une blessure. Je ne sais pas si, Carl, vous voulez en parler un petit peu. Parce que peut-être que ceux qui nous écoutent nous disent, ben voyons, s'ils trouvent des os, comment on peut savoir que c'est Samuel de Champlain? Il y aurait une blessure, je crois.
Oui, il y aurait une blessure par une flèche.
Sur le niveau de la jambe.
Au niveau de la jambe, fémur, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Puis ça pourrait être un objet d'identification, mais vous savez, il y a du monde qui ont été, des gens qui ont été blessés de toutes sortes de façons, puis par des flèches, il y en a peut-être d'autres aussi. C'est un peu embarrassant. Alors, le problème, c'est l'identification des ossements.
Mm-hmm.
C'est qu'on, d'abord, on n'a pas d'ADN de Champlain, de parenté. Hein, on ne connaît pas sa parenté. Bon, mm-hmm. Il y a des hypothèses, certaines découvertes en France, mais c'est loin d'être corrélé. Donc, il faudra avoir de l'ADN pour pouvoir travailler sur les ossements. Puis une blessure, c'est pas révélateur, ça pourrait l'être. À moins qu'on trouve un squelette au complet, ce qui me surprendrait dans l'état actuel des choses.
Il faudrait le tombeau.
Comme
là.
Je vous dis, il doit être sous la basilique. Si on aurait une chance de trouver, on pourrait peut-être trouver le tout au complet.
Le tout au complet avec la belle inscription qui nous attend. Là. Ici, J. Samuel de Champlain. On peut rêver quand même.
Oui, ça me surprend. juste pour terminer, c'est que Dave parlait des gouverneurs. J'ai travaillé sur le sujet. Il y a quelques années, mm-hmm. avec la paroisse. Malheureusement, c'est un autre archéologue, M. Pintel, qui a fait des fouilles trouver Jean-Yves, qui a trouvé des vestiges sous la basilique. Et la paroisse voulait faire une crypte pour les gouverneurs. Mm-hmm. Alors, j'ai en main un article que peut-être Dave a déjà vu, qui m'a été fourni par le curé lui-même, là, dans la revue L'Abeille, je ne me trompe pas, où tu avais un curé qui a suivi les travaux de fouilles lors de la reconstruction de la basilique. Alors, on savait exactement où étaient les corps des gouverneurs. Et comme par miracle, on a réussi à pas les trouver. Parce que quand je lis l'article en question où le curé de surveillait jour après jour le truc, le jour où ça s'est passé quelque chose, il est comme pas là. Donc il dit il a tout mis ça a dû tout être mis dans la nouvelle crypte, mm-hmm. la fosse commune. Là. Donc à mon avis, on pourrait les retrouver. Et c'est un sujet qui m'intéresse.
Un autre
sujet
à suivre.
Depuis cette époque-là, ça m'intéresse. Mais là, avant d'avoir des sous pour faire ça, puis c'était un gros projet, là, ça aurait été très intéressant. Là.
Donc, on constate, en fait, par cette entrevue, puis par ce que vous avez mentionné, Carl, qu'il y a encore beaucoup à faire en archéologie. Il y a certainement encore beaucoup d'énigmes à élucider, assurément. Et c'est déjà tout le temps qu'on avait ce soir, déjà une heure à parler de ce sujet qui est vraiment fascinant. Un grand merci à nos invités, donc Carl Lavoie, Dave Noël. Merci de vous être prêtés au jeu, de venir nous jaser de ce sujet polarisant qui est la recherche tombeau de Champlain. Merci énormément. À nos auditeurs, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion sur le site de Chiz ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale, « Que ce soit toi, que ce soit moi » de Félix Diot. C'était Rachel Archambault à l'animation avec Marie-André à la console. Bonne soirée à tous.
Et on remercie aussi Rachel Archambault pour sa contribution à l'équipe de 3600.
Oh, merci.
Merci beaucoup pour tes super belles émissions qui parlaient de tes archéologies, un sujet si fascinant, si passionnant.
Oh, merci Marie-André, c'est fin.
À démystifier aussi des mythes sur l'archéologie. On pense tout le temps à Indiana Jones, mais grâce à toi, on sait vraiment c'est quoi cette discipline.
Oh, c'est tellement gentil. Merci Marie-André.
Merci, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Qui t'a donné cette idée-là de voir si fort battre leurs ailes au-dessus de tous tes tracas, que l'issue soit accidentelle, tracée dans les lignes de nos doigts. La conclusion est-elle quelle, que ce soit toi, que ce soit moi. Aquarelle, un chat m'a demandé pourquoi nos soirées sombres à la chandelle refroidissaient à chaque mois. À quoi bon demander laquelle de toutes nos mauvaises fois, à tout jeter à la poubelle, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit toi. Tu n'es plus pas
Maintenant, LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Bienvenue à Journée d'Amérique. Embarquez avec moi pour un road trip sonore à travers les paysages riches et variés de la musique folk et country. Rejoignez votre animateur Émile Héroux dans cet univers vibrant, deux mardis par mois, de 19h30 à 21h. À bientôt sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonsoir tout le monde, vous êtes sur les ondes de Chiz